Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on vulgarise la recherche en biologie en français. Je suis Marie-Christine et je suis en compagnie de Stéphanie. Salut Steph!
Salut! Pour ce premier épisode de la saison 2.
Oui, les Lucioles ont repris leur envol! OK, j'arrête.
Bon, ça commence bien. On a rencontré Maëva Pérez, qui a déposé sa thèse au mois de juin, sa thèse de doctorat. Félicitations! Elle a fait son doctorat avec Bernard Anger au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal et était co-dirigée par 3 personnes. Donc, il y avait Rob Young au Centre océanographique national de Southampton en Grande-Bretagne, Kim Juniper à l'Université de Victoria et Pei-Wan Chiang à Hong Kong.
Ça fait beaucoup de commentaires sur une thèse. Je sais pas pour toi, Steph, là, mais moi, je suis vraiment très reconnaissante de notre rencontre avec Maëva. Elle a vraiment contribué à nourrir mon imaginaire en décrivant à quoi peuvent ressembler les profondeurs océaniques. Donc non, ce n'est pas du vide, il y a bien de la vie. En fait, c'est ça que Maëva étudie. Elle étudie des vers qui vivent sur ou près des sources hydrothermales à des milliers de mètres de profondeur et sont donc capables de résister à des gradients de chaleur et de pression inimaginables. Donc moi, ça m'impressionne totalement, ça me dépasse en fait. Puis en plus de ça, bien, on comprend vraiment qu'il y a un potentiel de découverte énorme pour les profondeurs sous-marines. Puis ça, ça stimule ma curiosité scientifique.
Mais absolument. Je veux pas donner trop d'informations sur l'entrevue, mais je veux aussi dire que j'ai moi aussi été émerveillée par l'exploration sous-marine qu'on a fait avec elle. C'est aussi la première scientifique à avoir utilisé une technique de génétique à l'extérieur du domaine médical pour explorer les fonds marins. Mm-hmm. Et donc, être la première à faire quelque chose, mais ça prend du courage. Et en plus, ça a donné des résultats qui ont repoussé la frontière de nos connaissances. Alors, bravo!
Oui, ça, c'est impressionnant.
Oui.
Pour nos auditeurs, nos auditrices, vous pouvez nous suivre sur Instagram. On publie beaucoup de contenu, donc des photos que Maëva va nous fournir et des vidéos, peut-être, et notre Instagram qui est leslucioles.podcast ou nous retrouver sur le www.leslucioles.podcast.com. Donc, n'hésitez pas aussi à nous écrire juste si vous aimez le podcast ou s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde en lien avec la recherche en biologie ou peut-être la vulgarisation scientifique.
Et puis, juste avant, on veut remercier Amélie Allard pour le montage, Mathilde Bélair et Léa Lafrance pour la création de contenu, les communications, et puis aussi la Bibliothèque des sciences du campus 1000 de l'UdeM pour le studio d'enregistrement.
Absolument.
Sur ce, bonne écoute!
Maëva Pérez, bienvenue au podcast Les Lucioles.
Merci.
On est vraiment chanceux, je pense, de te recevoir aujourd'hui parce que pour lancer la deuxième saison, oui, mais parce que tu fais ton doctorat à l'Université de Montréal, mais c'est assez rare que tu es à Montréal, donc parfois en Chine, à Hong Kong ou même en Colombie-Britannique où je pense que tu habites en ce moment. Fait que merci d'être avec nous pendant ton séjour.
Merci, ça me fait plaisir de revenir à Montréal.
Pour cet épisode-ci, c'est pas vraiment différent de celui de la saison 1. On garde la même formule. On voudra d'abord entendre parler de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au doctorat. Et puis, on va passer un peu de temps à parler des profondeurs de l'océan avec toi. Donc, plutôt le sujet global. Et puis, on va converger vers des résultats précis de ta recherche. Et puis, probablement finir avec des recommandations. Alors, on plonge. Qu'est-ce qui t'a amené au doctorat? D'où vient ton intérêt pour la biologie?
Moi, je pense que ça peut s'entendre à mon accent. Je suis français, j'ai grandi la plupart du temps en France, vraiment à côté de la mer. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans l'eau quand j'étais enfant. Et puis, j'ai toujours aimé l'école. Je viens d'une famille d'enseignants. Donc, ça a comme toujours été un peu une évidence. Je suis curieuse. J'aimais la biologie, j'aimais la recherche, j'aimais la mer.
Avais-tu des collections de trésors laissés par la mer?
J'ai comme beaucoup de coquillages chez moi, là, dans tous les endroits, dans mes trousses, dans mes...
As-tu des petits squelettes?
Des squelettes, non.
Des crabes, j'aime bien ça.
Mais oui, j'aimais bien attraper les crabes dans les trous, les observer.
J'en vis beaucoup. Puis là, après ça, toi, t'étais déjà certaine que tu voulais faire de la biologie, de la science, même de la recherche, je pense?
Oui, oui, j'ai su très tôt que je voulais faire de la recherche. Comme quand j'étais petite, je m'imaginais en donnant un cours à l'université, et puis je fantasmais un peu comme ça.
Quand est-ce que t'es arrivée à Montréal?
Je suis arrivée à Montréal donc après mon secondaire en France.
Ok.
Donc mon père avait immigré au Canada quand j'étais enfant. Donc j'ai vécu ici un petit peu aussi. J'ai fait 2 ans au primaire ici avant de retourner en France.
Ok.
Et finalement, j'ai voulu revenir à l'université, puis revenir habiter à Montréal. Donc, j'ai fait un bac dans le département de biologie de l'Université de Montréal.
OK, OK.
Et puis là, c'est là que j'ai vraiment découvert la génomique, puis j'ai voulu continuer là-dedans.
T'avais-tu des cours en particulier qui t'ont stimulé puis qui t'ont poussé à continuer dans une direction particulière?
Oui, j'ai vraiment, vraiment aimé le cours d'invertébrés.
OK.
Parce que c'est ça, d'un coup j'ai pu mettre un nom sur toutes les bébêtes que je voyais dans l'océan, et puis le cours d'évolution moléculaire qui était donné par Bernard Anger. C'est comme ça, j'ai découvert le génome, puis ça, j'ai capoté.
Avais-tu pu un peu toucher à la recherche pendant ton baccalauréat?
Oui, on a l'occasion de faire des stages quand même pas mal au bac. Donc j'avais fait un stage d'initiation à la recherche, puis j'avais fait un projet honor aussi.
OK. Avec Donc, Bernard Anger.
Avec Bernard Anger, oui.
Juste pour décrire, c'est quoi un honor pour ceux qui ne savent pas?
Ben, c'est dans la dernière année de bac, un espèce de cursus avec un projet de recherche un peu plus intense qui prend toute l'année. Et il me semble un cours en plus, c'était un cours de communication à mon époque.
Mm-hmm. Mais c'est donc c'est un certain nombre de crédits qu'on peut faire.
C'est ça, c'est comme 9 ouais. crédits, me semble, comme qu'on fait en plus ou à la place d'autres cours normaux.
Oui, je pense que c'est 9 crédits puis 3 crédits de cours de ça. Communication. Mm-hmm. Mm-hmm.
Donc, on intègre vraiment un labo, puis on peut voir un peu comment mm-hmm. la recherche est faite dans ce labo-là.
C'est comme une mini-maîtrise, en fait.
Oui, super. Et puis, mais là, on sait que tu as déménagé en Colombie-Britannique. Peux-tu nous en parler plus?
Oui, ben à la fin de mon bac, il fallait que j'apprenne l'anglais. Puis pour moi, c'est la seule solution.
Pourquoi? C'était... Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait apprendre l'anglais?
Ben parce qu'en science, il faut. tu sais, je me sentais bien poche quand il fallait lire des articles scientifiques en anglais, puis que j'avais vraiment, vraiment de la misère. Mmh. Et puis, j'avais envie d'être capable de communiquer en anglais aussi à l'oral. Mmh. Mmh. Et donc, c'est ça. Pour moi, il a fallu que j'aille dans le Canada anglophone pour vraiment être comme dans le milieu. Et j'ai participé à un programme, le programme Explore, qui est un programme canadien qui permet aux jeunes d'aller faire des cours de langue partout au Canada, donc soit en français, soit en anglais.
OK.
Et j'ai fait ça à Victoria. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai rencontré mon conjoint. Donc, je suis retournée après.
Donc, t'es restée là, même après la durée du programme. Okay,
c'est ça, je suis revenue, le programme dure 5 semaines. Et donc, après le programme, je suis retournée voir ma famille. Et puis, en septembre, je suis retournée. Puis, voilà.
Et t'es là depuis?
Je suis là depuis, non. En fait, j'ai passé 6 ans à Victoria. Donc, au début, je travaillais dans une boulangerie parce que j'étais encore pas super à l'aise. Puis j'ai décidé de retourner à l'école et c'est là que j'ai fait ma maîtrise. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à travailler sur les écosystèmes des profondeurs.
OK, donc tu as fait une maîtrise à Victoria.
Exactement.
Évidemment, en anglais aussi.
Oui, oui, oui. Okay. C'était pas facile au début.
Mm-hmm.
Puis j'imagine que d'avoir pris une espèce de pause entre tes études au baccalauréat puis ta maîtrise à Victoria, ça t'a permis peut-être plus d'enligner tes intérêts de recherche. Est-ce que tu continuais de réfléchir à ça pendant que tu travaillais à la boulangerie?
Oui, exactement. Je m'étais renseignée sur les professeurs qu'il y avait à l'université, puis qu'est-ce qu'ils faisaient comme recherche. Puis je savais que je voulais comme étudier la génétique, puis j'aimais beaucoup les invertébrés, donc je voulais faire un peu quelque chose avec ça. Et à l'Université de Victoria, il y avait un gros groupe qui travaillait sur les profondeurs, et dans les profondeurs, il y a beaucoup d'invertébrés, donc j'ai eu de la chance.
On parle de quelle profondeur?
Alors, les écosystèmes que j'étudie, c'est pas les plus profonds, mais on est quand même à 2500 mètres de profondeur.
OK. Quand même. Il fait noir.
Il fait vraiment noir.
Donc, et là, c'est durant ta maîtrise, tu as participé à une mission pour aller récolter ces invertébrés ou peux-tu nous dire une phrase là-dessus?
Exactement. Donc, j'ai moins d'expérience que mes collègues qui étudient la biologie des profondeurs en termes d'aller en mission, mais j'ai fait mon baptême. Donc, je suis partie pendant 3 semaines sur un bateau à peu près 200 km des côtes de la Colombie-Britannique sur un site qui s'appelle Endeavour. où il y a des volcans sous-marins et il y a une vie tout à fait incroyable.
Hmm. Ah, mais c'est cool, l'Université de Victoria, c'est vraiment sous le bord de l'océan Pacifique. C'est vraiment un terrain de jeu incroyable pour ce domaine-là en particulier.
Oui, 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 quasiment. Puis il y a un réseau câblé, finalement, qui fait tout le tour, donc qui part de la côte, qui va jusqu'à la dorsale océanique et qui revient et qui est connecté à l'université.
Attends, un quoi?
Un câble.
Ouais. Ils ont littéralement coulé comme de la fibre optique, là, l'Internet, okay. Au fond de l'océan.
OK.
Puis ça fait, je pense, 500 kilomètres. Et ça couvre toutes les zones océaniques.
Mais c'est pour récolter de l'information?
Exactement. Donc on peut y brancher tout plein d'instruments, des caméras, des senseurs.
Wow, okay.
Et puis toutes les informations sont comme diffusées en direct, en ligne, pour tout le monde.
Fait qu'ils ont les moyens, là.
Oui. Je vous mettrai le lien pour que les gens puissent aller voir tout ce qu'ils font. C'est vraiment hot.
Oh oui. Wow. Ils ont de l'argent. Et donc, j'imagine que là, tu as vraiment développé une passion pour les profondeurs et tu as continué ça au doctorat.
Exactement. Donc, la recherche que j'ai commencée en maîtrise, il y a comme plein de questions qui sont sorties, puis j'ai eu envie de continuer ça au doctorat et j'ai eu l'occasion. Donc,
mais voilà. Qu'est-ce qui te passionne des profondeurs? Là, je pense qu'on peut peut-être rentrer dans le sujet global déjà, mais j'ai juste trop de questions. Parce que pour moi, les profondeurs, c'est... T'sais, ça l'amène une certaine curiosité parce qu'on sait pas grand-chose, mais dans mon esprit, c'est juste noir. Il y a pas de lumière, puis ça me sonne un peu une cloche comme quoi qu'il y a pas de vie ou peu de vie. Donc, qu'est-ce qui t'a fait accrocher aux profondeurs plus qu'à l'océan? Par exemple, les mammifères marins, le plancton, les cycles des nutriments, t'sais, la colonne d'eau qui, généralement, stimule un petit peu plus les chercheurs. Là, t'es allé en profondeur.
Ben, les profondeur, c'est comme la frontière. C'est comme un univers différent. Puis j'étais vraiment, vraiment attirée par ça. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de lumière. Donc en dessous de 1000 mètres, il n'y a même pas un seul photon qui peut atteindre cette profondeur. Donc c'est la noirceur totale. La pression est immense. Les écosystèmes que j'étudie, ce sont comme des volcans sous-marins. Donc il y a plein de matériaux toxiques, la température est très élevée des fois. Et pourtant, ben, il y a de la vie. Et il y a de la vie, puis il y en a en masse. Il y a comme de toutes sortes d'espèces, puis tout le monde est content.
J'avais, parce que bon, avant d'être ici, ça m'avait vraiment intéressé de savoir comment est-ce qu'on avait découvert la vie. Et puis, je suis tombée sur plusieurs sites et plusieurs entrevues qui décrivent vraiment cette découverte pour la première fois. Et c'était une équipe de Woods Hole, l'Institut océanographique au Massachusetts, qui était partie... à peu près à 1000 kilomètres au nord-ouest des îles Galapagos, parce qu'il y avait, c'était, mettons, deux plaques tectoniques qu'on savait qu'il pouvait avoir ces volcans sous-marins, finalement. Mais l'expédition avait des géologues, j'imagine, plein, toutes sortes de professions, mais pas des biologistes, parce qu'on pensait pas qu'il allait avoir de la vie. Et quand ils sont allés, ou avec un sous-marin dans les profondeurs, ils ont vu, mais toutes sortes de choses. Ils sont un peu paniqués, j'imagine. Et pour aller chercher ces organismes-là, mais ils avaient aucune place où les entreposer dans leur bateau. Alors, ils ont pris l'alcool du bord. Genre, tu sais, vodka, tout ça. Pour mettre ces organismes-là et les préserver jusqu'à ce qu'ils rentraient au laboratoire.
Est-ce que tu peux nous dire ça a fonctionné?
Je sais pas, ben sûrement. Je veux dire, mais il y a aussi, je pense que quand tu sors ces organismes-là de la pression qu'ils vivent, ça doit les déformer aussi. Donc, ben, je pense, Maëva, tu peux peut-être nous en parler
plus. Certains, un petit peu, mais il y en a beaucoup qui ont par exemple, des carapaces, des bivalves, des moules. Donc là, ça maintient quand même la forme assez bien. Mm-hmm. Mais ce qui se passe, en fait, c'est comme ils se liquéfient un peu parce que leur membrane, leur corps est habitué à avoir comme beaucoup plus de pression pour les maintenir.
En termes de variables, pression, température, oxygène, ça ressemble à quoi? J'essaie de me faire une image pour que des organismes y vivent. Puis...
Ben, le fond de l'océan, il est vraiment froid en général. La température, c'est comme 0-2 degrés. Puis ça, c'est partout, sauf près de ces volcans où il y a finalement, on appelle ça des sources hydrothermales. Donc, c'est de l'eau qui va rentrer dans la croûte terrestre, qui va être chauffée par le magma et qui ressort sous forme de jets d'eau à des températures comme 300 degrés. Mmh. Et donc, il y a un spectre de température très, très, très fort, d'une variation de température très forte entre là où l'eau sort finalement par ces espèces de trous et peut-être 50 cm plus loin, l'eau est à 2 degrés.
Wow, donc le gradient est très prononcé quand même.
Exactement.
OK, c'est pas une région qui est énorme, là, qui est chaude.
Non.
C'est vraiment proche du volcan.
Après, il y a comme la diffusion quand même qui se fait, ce qui fait que la température peut être comme peut-être autour de 30 degrés dans les premiers mètres. Et puis, les roches sur lesquelles les organismes vivent sont aussi chaudes parce qu'il y a comme de la chaleur qui vient d'en dessous.
Et la nourriture de ces organismes-là, parce que si on pense à tout ce qui vit sur Terre...
Hey, mais l'oxygène puis la pression aussi...
Oui, oui. Mais justement, tu sais, je veux dire, est-ce que l'oxygène arrive jusque-là ou est-ce que... Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc ils ne peuvent pas faire de photosynthèse. Donc, pour les organismes du bas de la chaîne alimentaire, qu'est-ce qu'ils font?
Exactement, tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. C'est que, comme il n'y a pas de lumière, ben il n'y a pas de photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est la base de tout ce qu'on mange ici à la surface. Mm. Dans le fond, il n'y a pas ça. Mais il y a des bactéries qui font ce qu'on appelle la chimiosynthèse. Mmh. Donc, dans l'eau qui sort de ces fumeurs noires, de ces sources hydrothermales, il y a beaucoup d'éléments de composés réduits, c'est-à-dire des éléments qui sont riches en électrons. Et ça, c'est de l'énergie essentiellement que les bactéries vont être capables de capter pour fixer le dioxyde de carbone comme une plante le ferait. Et ces bactéries-là, ben, c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc, les animaux vont se nourrir de ces bactéries, les animaux vont former des symbioses avec ces bactéries. Et ces bactéries nourrissent un écosystème.
Mais est-ce qu'ils font de l'oxygène à partir de tout ça?
L'oxygène vient de la surface.
Okay.
Donc, tous les animaux qui ont besoin de respirer de l'oxygène, ben, ils vont l'avoir. Et l'oxygène va être diffusé dans l'eau, puis ils vont l'avoir comme ça. Puis, il y a certaines bactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène aussi. Qui font aussi la chimiosynthèse.
Est-ce qu'on sait un pourcentage environ de combien il y a d'oxygène? T'sais? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 3% par rapport à la surface?
C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je dirais que c'est à peu près égal. Mais c'est sûr qu'il y a quand même un gradient d'oxygène qui est en phase avec la chaleur et avec les composés réduits. Donc, quand il y a des composés réduits, ben, souvent, ça a tendance à réagir avec l'oxygène. Donc, quand on est vraiment proche des fumeurs, ben, là, il y a moins d'oxygène, il y a plus de température. Et puis, il y a beaucoup de ces éléments réduits. Puis, quand on est plus loin, ben, il y en a moins.
Juste peut-être, est-ce que tu peux nous nommer quelques composés réduits, comme ça les gens les ont en tête?
Ben, on peut penser à de l'hydrogène de soufre. On peut penser à des ions de fer, on peut penser à du méthane.
OK. Voilà. Donc, tout ce qui est peut-être métaux ou...
C'est ça, métaux, ouais. Des composés sulfurés, beaucoup de composés sulfurés.
OK, parfait. Donc, des choses du tableau périodique.
C'est ça.
Puis au niveau de la pression?
Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Donc, quand on descend au fond de l'eau, à chaque 10 mètres, il y a une atmosphère de pression en plus. Donc, une atmosphère, c'est de la pression qu'on ressent, nous, à la surface. Ce qui fait qu'à 4000 mètres, ben, on ressent comme 400 fois plus de pression que ce qu'on ressentirait à la surface.
Okay.
Les animaux que j'étudie sont comme à 2500 mètres.
Okay.
Donc, une analogie pour ça, ça serait être comme un peu être écrasé par un éléphant de tous les côtés.
Ouais, tu ressembles à pas grand-chose. Puis là, je vois que tu as amené quelque chose pour l'illustrer pour nous, mais on pourra peut-être le prendre en photo puis le montrer.
Oui.
Donc, c'est... Tu peux-tu m'expliquer c'est quoi?
Alors, c'est un gobelet en mousse, en polysirène. Puis les polysirènes, c'est comme des petites boules de plastique, finalement remplies d'air. Et ce gobelet-là faisait à peu près 15-20 cm. On peut y faire des dessins dessus, c'est comme une activité fun que tout le monde fait.
Tu fais des dessins avant?
Oui, tu fais des dessins avant. Puis après, c'est envoyé dans un sac dans les profondeurs avec le reste du robot, on en parlera. Et ben, ce qui se passe, c'est que la pression fait en sorte que toute l'air a envie de s'échapper, puis toute l'air s'échappe. Donc, le gobelet est finalement compressé en un truc tout petit de comme 5 centimètres. Shooter, là. Oui. Exactement. Donc, on passe du soft drink au shooter.
Ah, OK, parce que quand on le remonte, il reprend pas sa forme.
Exactement. Une fois que tout l'air est parti, ben, finalement, c'est comme juste compressé. C'est comme si tu prenais une boule de papier puis que tu
prenais une petite boule. Ce que j'ai dans mes mains, c'est la grandeur d'un shooter, là, comme on dit.
Ouais, ouais.
Mais avant, c'était
15
centimètres.
C'est cool.
Oui.
Donc, tout le monde sur le bateau ou environ quand c'est la première fois que vous faites cette expérience-là? Ou
oui, c'est ça. C'est comme une espèce de baptême, là, un rite d'un peu de tous les gens qui étudient les profondeurs. Ils en voient plein de choses aussi, des têtes en polysirène.
Que vous peinturez aussi?
Ben oui, tu sais, on...
Ça doit être assez drôle.
Dans la mission dans laquelle j'étais, ils ont même envoyé un steak avec de la marinade pour essayer de le faire mariner comme plus vite.
Puis?
Ben, j'étais pas dans le shift qui a pu le manger, malheureusement, mais il paraît que c'était bon.
OK! Ils l'ont mangé. Un tout mini steak, peut-être? Ou...
Non, non, c'était un gros steak, là. C'était comme pour toute l'équipe du bateau.
Wow! Ça doit coûter cher au restaurant, ça.
Est-ce que tu peux nous parler pendant qu'on est dans les pressions, la profondeur ou les mécanismes pour descendre ce petit verre de styromousse-là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment on récolte, comment on explore ces profondeurs-là? Parce que j'imagine que tu n'as pas les fonds ou nécessairement la volonté de prendre un sous-marin et de te rendre dans les profondeurs.
Oui, tu as mentionné un robot.
Exactement. Donc, il y a quelques sous-marins comme scientifiques qui sont en activité, que les gens peuvent utiliser. Mais aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des robots. Donc, c'est un robot téléguidé avec un câble qui va être connecté finalement au vaisseau. Et ce robot vient avec toute une équipe d'ingénieurs qui sont vraiment les papas du robot, qui le contrôlent, qui savent comme le réparer. Et nous, les scientifiques, ben, on donne des instructions. On dit, va là, prends une photo, attrape ça. Mm. Et les robots sont construits pour la science, souvent. Et ils sont vraiment bons, ils sont équipés de toutes sortes d'instruments, des aspirateurs, des différentes pinces, ils peuvent mettre des choses dans des boîtes, ils peuvent attacher des lacets sous l'eau. C'est comme, ils sont vraiment, vraiment bons.
C'est gros comment? Par exemple, celui que tu utilises, il ressemble à quoi? Il est gros comment? Il y avait quels instruments dessus? Si jamais tu sais, ça coûte combien?
Ça coûte très, très cher. Me semble que y en a un qui est beaucoup utilisé, qui s'appelle Ropos, qui a été construit par une équipe canadienne. Qui a coûté, me semble, 3 millions pour construire.
OK.
Puis juste pour utiliser, c'est aussi 25 000 $ par jour. Et ça a la taille d'un gros char, là, un peu plus gros, peut-être, comme un Hummer, peut-être.
Comme un Hummer.
OK.
J'imaginais une balayeuse. c'est la Roomba, là, celle qui voyage tout seul dans ta maison sans que tu sois là.
Oui, oui. Moi, j'imaginais un peu plus gros, un gros chien, tu sais.
Un chien, OK. Fait que c'est gros comme ça.
C'est gros comme ça parce que, ben, tu sais, il y a des instruments, souvent ils sont équipés de grosses boîtes dans lesquelles ils peuvent mettre des échantillons, donc faut quand même qu'il y ait de la place.
Donc maintenant on est en train de parler de comment est-ce qu'on les étudie. Et moi j'aurais une question pour toi, c'est pourquoi est-ce qu'on les étudie? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir cette information là?
Ben
who cares.
Je pense que tout le monde devrait se sentir concerné. Les sources hydrothermales, ben, déjà, elles sont magnifiques, elles sont mystérieuses. Mm. Mais en plus de ça, il y a de plus en plus des intérêts miniers. Donc, ce qui se passe, c'est que quand ces eaux-là dans les sources hydrothermales arrivent à la surface, avec la température de l'eau qui est froide, ça précipite et ça fait des espèces de cheminées qui sont composées de beaucoup de métaux, dont certains métaux précieux. Il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup d'étain, des métaux qu'on a de plus en plus besoin pour construire nos téléphones, puis des affaires de même. Mmh. Et... jusqu'à présent, c'était pas vraiment possible techniquement d'aller exploiter ces environnements, mais avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ben oui, ça devient facile. Puis l'idée, ça serait que ça pourrait être psychologique aussi, parce que on va là-dedans, puis on ramasse la cheminée, et puis voilà.
Peut-être.
C'était l'idée un peu de base, contrairement aux mines sur Terre, tu sais, où il faut comme ça pollue plus.
On a saturé l'air de de contaminants et de composés toxiques. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans les profondeurs de l'océan.
Ben, c'est ça. Le problème, c'est que quelles vont être les conséquences sur les organismes qui vivent là-dedans. Donc, les animaux, les bactéries qu'on retrouve dans les profondeurs, elles ont vraiment beaucoup de nouveautés. Elles sont capables de faire des choses qu'on n'a jamais vues. On pense qu'il y a comme une ressource de pharmacopée qui se cache là-dedans. Donc, si on va, qu'on exploite et qu'on tue tout, ben, c'est comme une perte
en même temps, toujours. Tu sais, oui, c'est dans les très grandes profondeurs, mais c'est pas un environnement qui est totalement isolé du reste.
Ben non, on a parlé de l'oxygène qui vient de la surface. Les sources hydrothermales, elles nourrissent aussi tous les océans avec notamment du fer. C'est un peu comme la vitamine là, des océans. Donc, il y a clairement un lien entre la surface et les profondeurs.
Puis, t'sais, sinon, tu nous parles de potentiel d'exploitation pour les activités ou pour le besoin humain. Mais moi, là, on parle d'océan, ça me ramène un peu à Rachel Carson puis à sa redécouverte puis de l'océan. Maintenant, dans les profondeurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi un intérêt dans ta recherche de juste découvrir puis regarder puis savoir qu'est-ce qui se passe pour la beauté du monde, juste pour les connaissances et pas seulement pour prévoir au cas où qu'il y ait des exploitations? Est-ce qu'il y a aussi cette...
Juste un côté d'émerveillement, finalement.
Exactement.
Ben oui, clairement.
Okay.
Et ce qui est magnifique, c'est que à chaque fois qu'on descend, ben il y a comme une nouvelle espèce qu'on n'a jamais vue avant. Mmh. Et ça, c'est une des propriétés aussi de ces écosystèmes, c'est que il y a aucun site qui est vraiment pareil. À chaque fois qu'on va sur un site, on trouve que finalement, il y a beaucoup d'endémisme. C'est-à-dire que les animaux qu'on voit là, on les a jamais vus ailleurs.
Mmh.
Et donc ça rajoute quelque part cette idée que ben ces écosystèmes-là sont précieux.
Est-ce qu'on sait combien d'espèces il y a qui vivent dans les fonds sous-marins?
Non, mais parce qu'on n'en a pas vraiment décrites beaucoup. Alors, les espèces qui ont été décrites, c'est beaucoup les gros animaux, là, ceux qu'on peut voir à l'œil nu, ceux qu'on est capable de voir sur les caméras.
Mm-hmm.
Mais il y a une diversité cryptique cachée vraiment pour tout ce qui est petit. Ou alors, des fois, il y a des organismes, on pense savoir ce que c'est, mais ça n'a pas été décrit. Au niveau de l'espèce.
Mmh. Et j'imagine qu'on est tout le temps en train d'en découvrir, donc de toute façon, ce chiffre augmenterait.
Exactement, exactement. Les taxonomistes sont vraiment occupés.
Est-ce qu'il y a des régions dans les océans du monde qui ont été plus étudiées que d'autres, puis d'autres qu'on ne l'a pas fait pour des raisons de conditions environnementales ou x, y raisons? Est-ce qu'il y a des zones qu'on connaît mieux, des zones qu'on ne connaît pas du tout, mais qu'on voudrait ou qu'on ne peut pas?
Ben oui, historiquement, les sources hydrothermales ont quand même été découvertes juste à la fin des années 70. Donc, les premiers sites sont ceux qui sont les plus étudiés. Les sites qui sont comme proches des côtes sont ceux qui sont les plus étudiés. Au milieu de l'Atlantique, par exemple, et entre l'Europe et l'Amérique, c'est plus facile d'y accéder. Et dans les dernières 10 ans, on a commencé à explorer un peu l'océan Indien. Donc, il y a beaucoup de sources hydrothermales là aussi, qui sont très, très différentes de celles qu'on retrouve en Atlantique ou dans le Pacifique Ouest.
Donc là, je suis en train de m'imaginer des zones qui sont plus étudiées que d'autres, parce que peut-être qu'ils ont plus de volcans ou d'organismes. Et on avait l'air de dire tantôt, que les gradients de température qu'on s'éloignait de ces sources hydrothermales étaient très forts. Donc, rapidement, on quitte l'environnement qui est propice à la vie. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ces environnements-là sont connectés les uns et des autres? Si on parle d'une source à un endroit et on va trouver une autre source des kilomètres plus loin, est-ce que les organismes peuvent aller d'un environnement à un autre?
Alors ça, c'est la question sur toutes les lèvres des biologistes des profondeurs.
Ah oui!
Parce que en effet, on a exploré que certains sites. Est-ce qu'il y a des sites plus petits entre? On ne sait pas. Et puis... c'est assez difficile d'étudier finalement la connectivité entre les sites parce que beaucoup d'animaux qui vivent sur ces sites-là ont des larves pélagiques, c'est-à-dire ce sont des larves qui vont se déplacer dans l'eau pendant un moment avant d'éventuellement retrouver un autre site propice et de se poser et de se développer.
Elles se promènent ou elles migrent activement ou elles sont juste passivement poussées par le courant?
Ça dépend des espèces.
Okay.
Et donc ça, c'est un grand facteur qui va expliquer finalement la connectivité pour certaines espèces entre les sites. Donc les larves qui vont être capables de nager un peu, mm-hmm. peuvent nager jusqu'à la surface, puis prendre des courants qui sont très rapides, puis se disperser vraiment, vraiment loin. Alors que les larves qui sont passives ou qui sont comme un peu plus lourdes vont tendance à rester dans un environnement plus local. Et donc, ces questions de connectivité, c'est vraiment ça qu'on a besoin de répondre pour savoir si les sites sont comme plus fragiles ou pas. Face à des problèmes d'exploitation. Donc on peut imaginer comme un site qui va être exploité, on détruit toute la vie, est-ce que les communautés sont capables de revenir sur ce site après ou pas?
Mmh. C'est un peu comme si on étudiait les îles sur la Terre, là, si je peux dire, puis on regarde c'est quoi les espèces, s'ils sont endémiques à ces îles-là, mais dans les profondeurs.
Ben oui, exactement, en fait.
Qui peut voyager entre.
Les systèmes hydrothermaux, ce sont vraiment comme des îles sous-marines.
Donc ça, c'est ton premier ou une des questions que tu t'es posée dans ton doctorat?
Exactement, je me suis posé cette question dans mon doctorat et j'ai regardé, donc beaucoup d'études s'intéressent aux espèces, donc aux macro-animaux, des gros animaux qui souvent forment une structure pour d'autres animaux, qui sont vraiment des espèces fondatrices. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écosystèmes des sources hydrothermales, la plupart des espèces sont en symbiose avec des bactéries.
Est-ce qu'on peut décrire symbiose?
Alors, la symbiose, c'est une relation très intime entre une bactérie et, dans ce cas-là, un animal. Et dans cette relation, les deux ont un bénéfice.
Mais pour visualiser, la bactérie est à l'intérieur de l'animal, elle est sur l'animal, elle est à côté.
Alors, il y a des symbioses très, très diverses dans les sources hydrothermales. On a, par exemple, des crabes qui font pousser des bactéries sur leurs poils, mmh. puis après, qui les mangent. Mais il y a aussi des palourdes qui vont avoir des bactéries à l'intérieur même de leurs cellules, dans leurs branchies. Mmh. Et moi, le ver que j'ai étudié a des bactéries à l'intérieur de son corps, dans un organe spécial.
OK.
Donc, parlons du ver que tu as étudié. C'est qui, c'est quoi, il ressemble à quoi, il mange quoi?
On veut tout savoir.
Il tient comment?
Il a quelle couleur?
Moi, je l'imagine.
Est-ce qu'il est blanc? Tu sais, parce que...
Ah, mais oui.
Est-ce qu'ils ont des couleurs, les organismes?
Je me demandais si c'était une question stupide à poser. Ils ont-ils des couleurs? Est-ce que la vie sous-marine est en noir et blanc?
Mais oui, ils ont des couleurs. Pas tout le monde. Souvent, la couleur sert pas grand-chose, donc par exemple, les...
Donc, c'est une bonne question.
Oui. Tu sais, les crabes peuvent la perdre ou pas. Le ver que j'étudie, c'est donc il est sessile, c'est-à-dire qu'il grandit sur un substrat mm-hmm. et il vit dans un tube. Et c'est un ver assez exceptionnel parce que en fait, il mange pas. Donc il n'a pas de bouche, il n'a pas de système digestif, il n'a pas d'anus. Il a à la place ces bactéries-là qui dans lesquelles il dépend complètement.
Mais est-ce que c'est un organisme ou c'est les bactéries qui le forment qui fait l'organisme? Y a-t-il une fonction lui-même ou c'est juste il sert d'espèce d'enveloppe puis il y a des fonctions gérées par les bactéries? C'est quoi son but dans la vie?
Mais là!
Non, mais je sais pas si tu comprends ma question. Tu sais, s'il est juste plein d'organismes puis il n'y a pas de fonction, il peut pas manger, il peut pas. Tu sais, c'est juste un enveloppe? C'est juste un sac?
Ben, probablement que du point de vue des bactéries, oui. Du point de vue du ver, non, parce que quand même, il vit. Donc, en fait, au début, la larve de ce ver a une bouche, un système digestif. Mmh. Et c'est peu de temps après que le ver se soit posé, finalement, sur son substrat, les bactéries viennent l'infecter, finalement. Et suite à l'infection, tous ses organes se résorbent et il devient cet organisme dépendant des bactéries.
Juste pour le visualiser, le substrat, ça peut être une roche, c'est vraiment le fond marin. Là, c'est...
Oui, ça peut être une roche, ça peut être comme les cheminées.
Oui, que t'as mentionné plus tôt. Et puis, donc, il grandit vers le haut. Donc, c'est vraiment comme un cylindre, j'imagine, qui pousse.
Exactement, ça ressemble à un tube. Et puis, en haut, il y a comme des branchies qui sortent du tube. On peut voir des vers similaires dans les océans ici. On appelle ça comme les vers sapins de Noël. Et donc, les branchies sont vraiment belles, elles sont rouges. Le vert a un espèce de sang spécial qui va permettre de capter l'oxygène, le dioxyde de carbone et les composés soufrés pour les amener jusque dans l'organe qui a les bactéries. Mmh. Et les bactéries vont utiliser ça pour faire la chimiosynthèse et créer les sucres, les protéines que le vert, finalement, va digérer.
Oui, donc la nourriture pour le vert.
Exactement.
Donc, le vert offre un habitat pour les bactéries et les bactéries offrent la nourriture pour le vert. Exactement. D'où la symbiose, parce que tout le monde en bénéficie.
C'est ça.
Parfait.
Mais est-ce que c'est vraiment une symbiose ou il y en a un qui bénéficie plus que l'autre?
Ben, c'est difficile à savoir parce que les bactéries sont très difficiles à compter dans l'eau libre. On ne sait pas vraiment où elles sont. Il y a certains groupes qui ont essayé comme de filtrer de l'eau puis de voir s'il y en avait dans l'eau, mais il y en a comme pas beaucoup. Alors il faut filtrer beaucoup beaucoup d'eau. Okay. Donc la biologie des bactéries, en fait, on ne sait pas grand chose. Et c'est là que mon projet un peu est arrivé. Donc j'ai voulu savoir c'était quoi la connectivité de ces bactéries là, parce qu'on connaît la connectivité des autres, on l'a étudiée avec des outils génomiques, mais sur les bactéries, ben on connaissait rien.
Qu'est-ce que tu veux dire par connectivité des bactéries? Comment elles se déplacent d'un écosystème à l'autre?
Exactement, d'un okay. site à l'autre.
Okay.
Et est-ce qu'il y a des barrières à leur connectivité? Des choses comme ça.
OK, cool. Mais je pense que ça met vraiment bien la table pour que tu nous parles de ton design expérimental. Et je me rappelle... Mais je veux juste plugger qu'on va mettre des photos de sapins de Noël.
Non, mais en fait, c'est parce qu'on en a parlé tantôt, Maëva l'a mentionné, il y a des vers sapins de Noël qui habitent proche d'ici dans les océans,
mm-hmm.
dans l'Atlantique.
Dans tous les océans.
OK. Et puis là, pendant qu'eux, ils discutaient à quoi ressemblait le vert, mon esprit s'est un peu égaré vers Google. Mais j'ai commencé... Google. Mon accent de la région. Puis là, j'ai commencé à regarder les verts sapins de Noël, puis c'est tellement beau, on n'aura pas le choix de vous en partager. Je pense que c'est de l'art.
Oui.
Mais là, pourquoi qu'on parle de ça?
Design expérimental.
Donc, le design expérimental, ça ressemble, t'as combien de sites, sont éloignés, comment, ça a pris combien de temps à les échantillonner, c'était quoi ton rôle, mm-hmm. comment tu fais pour remonter ces verres-là, est-ce qu'il y a, comme tu dis, se liquifie? Donc, voilà.
Donc, le but, c'était de regarder la diversité génétique de ces bactéries symbiotiques-là. Les bactéries symbiotiques, j'en ai parlé, dans l'environnement, c'est comme difficile, on ne sait pas les attraper, on ne sait pas où elles sont.
Quand on parle de l'environnement, c'est vraiment dans l'eau.
C'est ça, dans okay. l'eau, tu sais, ou peut-être dans l'eau proche des roches. Ou,
oui.
Mais dans le vert, ben, on sait qu'elles sont là, il y en a beaucoup. C'est une espèce en particulier, donc c'est facile, on n'a qu'à suivre une seule espèce. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait finalement les bactéries qui se trouvent dans le corps de vert. J'ai regardé 6 sites répartis sur 3 régions. Une région vraiment éloignée, et puis 2 autres qui étaient comme un peu plus proches. Et ça a été important aussi de regarder des bactéries qui viennent d'habitats différents, c'est-à-dire des habitats où les conditions environnementales sont très différentes. Donc j'ai des vers qui vivent vraiment proches des fumeurs noirs, donc là où il y a une forte température et peu d'oxygène. Et j'ai des vers, la même espèce de vers, qui va se retrouver vraiment plus loin, plus en périphérie finalement de ces fumeurs noirs-là, qui vont être longs, puis qui vont se retrouver dans des conditions plus de basse température.
Fumeur noir, c'est juste une appellation pour les cheminées qui émettent finalement une l'eau chaude.
Là. Exactement.
Mais on dit noir parce que l'eau a la couleur noire?
Oui, okay. Ça ressemble vraiment à de la fumée, en fait. Donc, okay. Ce qui se passe, c'est que quand l'eau voyage à travers la croûte océanique, ben il y a beaucoup de minéraux qui vont se dissoudre dans l'eau, ce qui fait que quand l'eau ressort à forte pression et température, ben tous ces minéraux-là sont dans l'eau et ça ressemble vraiment à de la fumée noire.
OK, parfait. Donc, fumeur noir.
Fumée noire.
On dit fumeur noir.
Fumeur?
Oui.
Fumeur noir. On dirait un nom d'artiste. Un rappeur. Moi, j'allais dire, on sait qu'il est noir à cause de vos robots qui sont équipés de lumière et de caméras.
Oui. Quand on envoie le robot, on ne peut pas travailler à l'aveugle. Donc, il y a des vraiment projecteurs, des très forts projecteurs qui nous éclairent.
J'imagine que les photos de ça sont assez spectaculaires aussi.
C'est magnifique. Je vous en ai transmises quelques-unes.
Oui, qu'on va tout à fait mettre. Oui.
Je me retiens pour pas aller regarder ça maintenant.
Non, non, écoute.
Mais tu disais que c'est la même espèce, mais adaptée à des différentes températures autour de la source thermale. Quand on sait que c'est la même espèce, quand on sait que c'est pas une sous-espèce ou une espèce cousine? Ou... Tu sais, tu disais qu'il y en avait des longues, il y en avait qui toléraient 300 degrés, d'autres un peu plus en périphérie où c'est moins chaud.
Oui, oui, ben l'animal ressemble à vraiment des formes différentes, en fait, en fonction de l'environnement. Ça a été initialement décrit comme deux espèces, d'ailleurs, à cause de ça, mais les premières analyses génétiques, finalement, quand on a commencé à regarder les gènes, ben, on a vu que c'était la même chose.
Même chose.
Donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est la même espèce qui est juste très plastique. On appelle ça de la plasticité phénotypique, c'est-à-dire différentes formes en fonction de l'environnement.
Donc là, tu nous dis que tu as récolté ces vers-là à différents endroits, mais c'est le robot, c'est une pince, on met un sac par-dessus, puis on les prend comme... J'aimerais juste visualiser.
Oui, c'est exactement ça. Le robot va comme attraper une grappe de verre, puis il va le mettre dans une boîte, puis après, on va envoyer la boîte à la surface.
Puis la boîte, est-ce qu'elle protège ces organismes-là du changement de pression, de température, de... Qu'est-ce qui se passe?
Non, pas forcément. Alors, il y a certaines boîtes qui peuvent le faire, qui sont mieux concis, qui sont capables de vraiment garder les animaux à une certaine pression. Mais moi, mes animaux ont été sacrifiés, donc on savait qu'ils allaient mourir de toute façon. Donc, on les a juste comme mis dans une boîte qui ferme à peu près pour pas qu'ils tombent. Okay. Puis, on les envoie.
Fait que tu récoltes une masse diffuse?
Donc, je récolte des vers qui sont quand même... en bonne shape, là, okay. Parce qu'ils sont dans un tube, donc ça permet de...
Ah oui, j'avais une question pour ce tube-là. C'est le ver qui crée son tube.
Oui.
Ah oui, et c'est ça que tu as apporté.
Oui, j'ai apporté quelques exemples de tubes. C'est des tubes faits en chitine, là, donc c'est comme le même matériel que les ongles puis les cheveux, à peu près. Ça ressemble un peu à du papier.
Oui, il faut pas les ouvrir, hein, ces bouteilles-là, parce que
ça sent.
Ça va sentir
mauvais.
Ça va sentir bon. Dans le fond de la mer.
Je sais pas ce que ça va sentir, mais ça fait comme plusieurs années qu'ils sont dans les bocaux.
OK, donc là, ce que je regarde, ce sont des pots maçons, finalement, qui sont à peu près un peu plus petits que ma main. Et il y a des tubes beige. Donc, c'est ça. Donc, ils ont une couleur beige, mais chaque tube, j'imagine, est-ce qu'ils sont cassés? Parce qu'ils ont pas l'air très longs, tu sais. Ils ont peut-être la longueur de mes doigts. Ils sont plus minces. Ils ont peut-être un demi-centimètre de diamètre. Mais est-ce que c'est à peu près cette grandeur-là ou ils peuvent être vraiment plus longs? T'sais, combien longs est-ce qu'ils peuvent devenir, ces tubes-là?
Beaucoup de questions.
Alors, oh, oui, j'ai dû casser les tubes pour les mettre dans les boîtes.
Ah, OK.
Les vers, dans leur tube, alors en général, le ver est plus petit que le tube, mais le tube peut être comme 1 mètre, 1 mètre 50 de long. Ça peut être très, très long.
Donc là, le robot a récolté les vers et leur tube. Évidemment, tout vient ensemble. Et toi, tu prends ça, tu l'amènes au labo, tu fais quoi avec?
Ben, je dissèque les vers. Moi, je m'intéresse à l'ADN, puis à l'ADN des bactéries qui sont à l'intérieur du corps.
Okay.
Donc, la première étape, ben, c'est d'enlever le ver délicatement de son tube.
Ouais.
Et puis ensuite, je prends finalement le milieu du corps, puis j'extrais les bactéries qui sont dans cet organe spécial. Et après ça, ben, tout va se passer sur l'ordinateur. Donc, j'extrais de l'ADN, je l'amène à séquencer. Et puis le reste de mon travail, finalement, le reste de ma thèse, 95% de ma thèse, c'est fait sur l'ordinateur.
Mmh.
Ouch. Pour une biologiste, est-ce que c'est difficile?
Oui et non. La courbe d'apprentissage a été assez rude pour tout ce qui est un peu bioinformatique. Mais c'est très satisfaisant parce qu'on a la réponse tout de suite.
Mmh.
Et il y a comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Il suffit d'aller gratter. Puis...
Donc, c'est un algorithme sur l'ordinateur qui te donne la séquence de l'ADN du ver et la séquence de l'ADN de la bactérie.
Exactement. Donc, il y a comme des espèces de machines fabuleuses qui vont être capables de prendre vraiment l'ADN organique et puis de le lire en utilisant comme de la chimie et de transformer ça en un fichier de texte, littéralement ATGC, un fichier de texte d'ADN.
Et tu dis ATGC parce que ce sont les
bases de l'ADN.
C'est ça. Donc, c'est les quatre lettres. Et c'est juste, c'est...
Adénine, thymine, guanine et... La cytosine.
Ah. Wow!
Cours de génétique en première année de bac.
Oui, oui, oui. Et donc, dépendamment de qui on est, de quelle espèce on est, on va avoir ces quatre groupes aminés.
Mais on va avoir des séquences différentes.
C'est ça que je voulais dire. De ces quatre groupes aminés, là.
Exactement.
Et les séquences sont longues comment, juste?
Alors, pour faire des études de génétique des populations, c'est-à-dire pour savoir c'est quoi un peu la diversité génétique dans différents endroits, en général, on va choisir un gène en particulier ou un morceau de gène qui va être en général assez conservé, mais qui va quand même avoir un petit peu de mutation, donc un petit peu de variation. Et on va regarder la séquence de ce gène dans tous les individus. Mmh. Alors, pour les bactéries, le problème, c'est que le gène qui est beaucoup utilisé pour faire ça, il donne pas assez d'informations, en fait. On est capable de différencier différentes espèces de bactéries, mais on n'est pas capable de différencier différentes souches de bactéries.
C'est quoi la différence entre souche et espèce?
Alors, quand on parle de bactéries, c'est assez compliqué de définir une espèce.
Okay.
Le critère standard, un peu, c'est 97% d'identité au niveau des bases de l'ADN. Donc, si on regarde deux séquences qui ont moins que 97% d'identité, c'est-à-dire qui sont différentes à plus que 5%, on va considérer que c'est des espèces différentes.
OK. Mais des souches similaires?
Ben après, chaque espèce peut avoir plusieurs souches.
Okay.
Et quand on veut faire des études de population, ben là, il faut vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une espèce. Donc, il faut être capable de distinguer les différentes souches de bactéries.
Ça me semble un travail colossal.
En fait, il suffit d'utiliser le bon gène. Donc, ce gène-là, qui est utilisé par tout le monde, qui différencie les différentes espèces, ben, il n'est pas assez bon, il faut en prendre un autre. Et donc, ce que j'ai fait dans mon premier chapitre de thèse, ça a été d'essayer de regarder un autre gène et de voir si cet autre gène, il peut me donner l'information dont j'ai besoin. Si l'autre gène, il est assez plastique ou assez diversifié pour différencier les souches.
Est-ce que les gènes, ils ont des noms?
Oui, je peux vous donner les noms. Donc, c'est le gène qui est utilisé par la plupart des gens pour différencier les espèces. C'est le gène 16S. C'est son nom.
Ok.
c'est un gène ribosomal qui code pour un ARN qui fait partie des ribosomes. Et le gène que j'ai testé finalement, il s'appelle CRISPR. CRISPR, on en a entendu beaucoup dans les nouvelles parce que souvent ce gène-là, il vient avec une série de d'autres gènes qui vont être comme des ciseaux moléculaires. Et le tout, donc le gène CRISPR et les autres gènes qui s'appellent Cas, forment le système immunitaire des bactéries, si on veut. Donc ce qui se passe, c'est que quand les bactéries sont infectées par un virus, si elles ont le système CRISPR-Cas, elles vont être capables de couper l'ADN viral, d'une part, mais d'autre part, elles vont être capables aussi d'insérer un morceau du génome du virus dans le gène CRISPR. Donc le gène CRISPR, en soi, c'est juste la banque de données de tous les virus qu'une lignée de bactéries a rencontré.
Pour se protéger.
Ben oui, pour se protéger. Donc ça, c'est très intéressant pour faire des études de génétique de population, des études où on essaie de retracer l'histoire des souches de bactéries, parce que on a juste à regarder ce gène-là, puis on voit déjà leur histoire par rapport aux infections des virus.
Et elles insèrent un bout de l'ADN viral dans le gène CRISPR pour se rappeler qu'elles avaient été infectées.
Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que si la même bactérie se retrouve infectée encore, elle va exprimer ce morceau CRISPR-là, et puis elle va monter la petite séquence qui vient du virus dans une espèce de machine qui va être la tête chercheuse, finalement, qui va servir à comme reconnaître ce virus puis à le couper en petits morceaux.
Mais comment le gène CRISPR des bactéries t'aide à comprendre la connectivité entre les sources hydrothermales?
Alors, la beauté de ce gène-là, c'est que comme c'est un gène qui change en fonction des infections bactériennes subies par les différentes souches de bactéries, ben, quand on regarde ce gène et qu'on voit deux séquences différentes, c'est parce que on a affaire à deux lignées de bactéries différentes, ou du moins qui ont rencontré dans leur passé des virus différents.
Parce que c'est transmis, là, je ne sais pas comment se reproduisent tes bactéries.
Ça se produit de manière asexuée, c'est-à-dire que ça fait des copies. Ça fait des copies.
Fait que c'est transmis ce gène-là, puis exactement. C'est cette variation-là.
Ah, exactement. Le gène est transmis avec les copies virales.
Avec tout le reste du génome, finalement. Donc les virus, eux, peuvent mourir, mais l'information que la bactérie a rencontré ce virus dans le passé reste dans le génome de la bactérie et est transmise à la descendance.
C'est comme un peu un bout d'histoire, puis là tu regardes si les histoires sont communes.
C'est ça, c'est comme si il regardait un peu, comme si chaque bactérie garde un livre de tous leurs ennemis là, dans le passé, oui. Puis que différentes souches de bactéries ont différents ennemis. Puis
donc, tu avais plusieurs sites, donc tu avais 3 sites, un qui était plus éloigné et puis 2 plus rapprochés. Et dans chaque site, tu avais des vers qui étaient à des positions différentes par rapport à la source, vraiment à la température, la source hydrothermale. Donc, qu'est-ce que tu as vu dans les bactéries avec ce gène-là?
Donc, l'hypothèse, c'était que ben, peut-être dans des conditions environnementales différentes, ben, on allait avoir différentes souches de bactéries, parce que on sait que ben, les bactéries sont quand même très influencées par l'environnement. Donc on s'attendait à voir que peut-être toutes les bactéries qui sont associées à des vers vraiment proches des sources hydrothermales vont être différentes des bactéries qui sont dans les vers qui sont loin des sources hydrothermales.
Peu importe, on est où dans tes sites.
Exactement. Donc ça, c'était une des hypothèses.
Mm-hmm. Parce que je pensais que toutes tes sites, c'était des sources hydrothermales, mais t'en as aussi qui sont entre. Mm.
C'est toutes des sources hydrothermales, mais sur chaque site, il y a plusieurs micro-habitats.
Okay.
Donc, sur le même site hydrothermal, quand on est proche des fumeurs noirs, ça va être un micro-habitat, puis quand on est loin, ça va être un autre micro-habitat. Okay.
Et alors, les résultats?
Ben, ce qu'on a observé, c'est pas du tout ça. ce qu'on a observé, c'est que, en fait, les bactéries qui étaient aussi vraiment plus au nord, elles étaient complètement, complètement différentes que les sites qui se retrouvent, comme, qui étaient plus bas, plus au sud. Et il n'y avait pas vraiment de différence entre les conditions environnementales.
Mmh. Ils étaient toutes différentes, peu importe la condition environnementale, ou...
Ben, il y avait beaucoup de diversité à l'intérieur. Déjà, à l'intérieur d'un même vers, il y avait plusieurs souches. Les souches étaient différentes entre chaque vers, mais en général, cette diversité-là, entre les vers, était aussi grande que la diversité entre les sites.
Ok.
Donc, ça veut dire que, ben, quelque part, c'est pas vraiment l'environnement qui va contrôler la génétique ou la distribution de ces bactéries-là, mais c'est d'autres facteurs. Des facteurs qu'on soupçonne, c'est les courants marins profonds.
Okay.
Donc quand on regarde la distribution des hôtes, donc la distribution des vers et leur distribution d'un point de vue génétique, on sait que les sites au nord sont aussi isolés apparemment pour les hôtes. Donc dans cette étude, quelque part, on montre que ben, possiblement les courants marins, ben, ils affectent aussi la distribution des bactéries. C'est pas que tout est partout, comme souvent on pense.
OK, donc ce serait moins les conditions environnementales, chaud-froid, des choses comme ça, mais plutôt vraiment la distribution spatiale qui fait que...
On va dire, en même temps, les courants marins, ils ont des compositions de minéraux, ils ont des conditions différentes. Est-ce que ça peut expliquer les bactéries qui sont différentes?
Mais il faudra en savoir plus sur les courants marins. Ça, c'est un gros problème. C'est que, en fait, on sait assez peu de choses vraiment sur c'est quoi la circulation dans les profondeurs. Et donc, une fois qu'on aura comme étudié ça, je pense qu'on sera capable d'interpréter mieux la distribution de ces bactéries.
Donc, finalement, le gène CRISPR, ça a vraiment bien fonctionné.
Ben oui. Donc j'ai fait le test avec les deux gènes, hein, le gène que tout le monde utilise, puis le gène CRISPR. Et donc avec ce gène 16S-là, on voit absolument aucune différence. C'est comme si c'était vraiment la même souche de bactéries, la même bactérie partout. De partout. Mais avec CRISPR, ça a été une histoire complètement différente.
Dans la littérature, tu étais pas mal la première à utiliser le CRISPR pour déterminer les souches de bactéries dans les sources hydrothermales?
Oui, pas mal. Donc cette méthode, on appelle ça le CRISPR typing, ça a été beaucoup utilisé en milieu hospitalier pour suivre des bactéries pathogènes, pour savoir d'où elles viennent et tout ça, vraiment à petite échelle. Mais j'ai été la première à l'utiliser sur une bactérie qu'on n'est pas capable de cultiver, puis dans les profondeurs.
Ah, une bactérie qu'on n'est pas capable de cultiver, donc qu'on peut pas faire grandir dans un laboratoire. Il faut la récolter dans les profondeurs.
Exactement. Donc, en fait, la plupart des bactéries, on n'est pas capable de les cultiver. Et donc ça, c'en est une. C'est pas faute d'avoir essayé, mais on sait juste pas la faire grandir dans une boîte de pétri. Donc ça fait que c'est plus difficile à étudier.
Mais pour une chercheuse, être la première à faire quelque chose, c'est quand même une belle récompense, une belle réussite, un beau.
C'est vraiment un bel accomplissement aussi.
Ouais.
Ben oui, c'est le fun. Puis c'est le fun que ça ait marché parce que. C'était comme un peu un projet assez risqué. Je savais pas si j'allais être capable de voir de la variation. Je savais pas si j'allais être capable d'amplifier ce gène. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ça serait que ce marqueur soit plus utilisé dans les études, et notamment dans un but de conservation. Donc, si un nouveau site est potentiellement exploité et qu'il faut faire des études au préalable, j'aimerais que ce marqueur soit utilisé pour étudier les populations bactériennes et pas juste les animaux.
Et la connectivité entre les écosystèmes pour voir si un écosystème qui serait ravagé par l'industrie, mettons, pouvait se faire recoloniser par d'autres bactéries, d'autres vers.
Exactement.
Tu as ouvert une nouvelle porte, un nouvel élan pour la recherche.
J'espère, on verra.
Puis, je sais que ta recherche ne s'est pas arrêtée là au niveau des vers. Je sais que tu es allée regarder d'autres choses. Que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite de ta recherche?
Alors, je me suis beaucoup intéressée aux bactéries symbiotiques de ces vers. Et puis, vers la fin de mon doctorat, j'ai voulu m'intéresser aux vers eux-mêmes. Donc, on a mentionné plutôt le vers a vraiment différentes formes, mais d'un point de vue génétique, c'est comme le même. Mm-hmm. Alors, pourquoi est-ce qu'il a ces formes différentes-là? On soupçonne que c'est à travers l'épigénétique. Donc, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va finalement influencer l'expression du génome. Et moi, je me suis intéressée à un mécanisme épigénétique en particulier qui est la méthylation de l'ADN. Donc, la méthylation de l'ADN, des groupes méthyl, simplement, qui sont attachés sur l'ADN. Donc, c'est une modification chimique de l'ADN, tout simplement.
Dans le fond, tous les organismes font de la méthylation?
La méthylation, c'est très bien étudié chez les vertébrés, chez les humains, parce que on sait que ça a une très forte influence sur l'expression des gènes. Donc, okay. C'est ça qui fait en sorte que, on a des cellules différentes dans notre corps. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut s'acclimater quand les conditions de l'environnement changent. Si on est un alpiniste, qu'on va sur le mont Everest, on va être capable, au bout d'un moment de, jusqu'à une limite, là, on va être capable d'ajuster, de commencer à produire plus de globules rouges pour avoir plus d'oxygène.
Mmh. Puis, la méthylation, c'est qu'un processus épigénétique.
Il y en a d'autres, bien sûr.
Okay. C'est un des processus épigénétiques.
Oui, mais c'est un qui est les mieux connus chez les vertébrés et qui est le mieux étudié.
Puis toi, tu l'utilises vraiment pour comprendre l'acclimatation, l'adaptation, la résilience de ces vers-là aux environnements et des sources hydrothermales?
Mais moi, ce qui me reste dans la tête, c'est que tu dis que c'est bien étudié chez les vertébrés. Mais là, depuis tantôt, on parle d'un invertébré. Donc, est-ce que la méthylation n'est pas du tout étudiée dans les invertébrés?
Exactement. Donc, on sait plein de choses sur le rôle de la méthylation chez les vertébrés, mais chez les invertébrés, ça n'a pas été énormément regardé. Et les quelques espèces qu'on a regardées, on a vu des choses vraiment bizarres. Donc, certaines espèces n'ont pas de méthylation du tout. D'autres espèces ont leur génome très peu méthylé ou la méthylation n'est pas aux mêmes endroits. Et donc ça, il y a comme des questions générales sur comment la méthylation a évolué, quels sont les rôles de la méthylation chez les invertébrés. On ne sait pas finalement. Donc la première étape de ce projet, avant de vraiment pouvoir explorer le rôle de la méthylation dans tout ce qui est changement de forme, plasticité phénotypique, c'est simplement de savoir est-ce qu'il y a de la méthylation dans les invertébrés des profondeurs et ça sert à quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé au niveau de la Qu'est-ce que tu as trouvé au niveau de la méthylation des, de ces vers-là? Ou on regardait au niveau des bactéries ou des vers, vraiment les vers-là?
C'est vraiment au niveau des vers, oui. Donc, j'ai regardé trois espèces de vers différentes. Et la première chose, c'est que de la méthylation, il y en a.
OK.
Donc, ça, c'est déjà un résultat. Il y en a. Il n'y en a pas autant que chez les vertébrés. Okay. Il y en a un petit peu.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup?
Mais quand je détecte la méthylation donc dans le génome, je vois que il y a plus de bases qui ont ces groupes CH3 qui sont attachés dessus ou pas.
OK. Puis qu'est-ce que ça l'indiquait sur leur acclimatation à l'environnement? Est-ce que ça donnait cette information là ou...
Alors pour comprendre c'était quoi le rôle de la méthylation de l'ADN chez ces vers là, il a fallu que je sache un peu c'était où que la méthylation tombait. Donc, voir la méthylation sur l'ADN, ça suffisait pas. Il a fallu que je comprenne où c'est qu'ils sont les gènes, puis que je corrèle ça finalement avec la méthylation et avec l'expression aussi de ces gènes-là. Mm-hmm. Donc, en plus de regarder la méthylation, j'ai séquencé le génome de ces vers-là. Les gènes représentent qu'une petite proportion du génome, et donc il faut identifier c'est où dans le génome que sont les gènes. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai pu voir que la méthylation et là où se retrouvaient les gènes, c'était au même endroit. Okay. Donc, en fait, ça veut dire que les gènes sont méthylés, la plupart des gènes sont méthylés chez ces animaux-là.
Puis, en sachant c'est quels gènes, on pourrait savoir si des trucs qui sont surexprimés, donc sont... C'est quoi ça nous informe?
C'est ça. Quand on ajoute l'information de l'expression des gènes, là, je me suis rendu compte que les gènes qui étaient très fortement méthylés étaient plus exprimés que les autres.
OK. Donc, c'est bon signe.
C'est bon signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mécanisme de méthylation, le rôle de la méthylation chez ces animaux-là, ça sert à, quelque part, aider à l'expression des gènes. Ce qui n'est pas vraiment le cas chez les vertébrés. Chez les vertébrés, la méthylation sert à silencer les gènes.
Ah oui?
Waouh! OK, je m'attendais pas du tout à ça.
En vrai, moi non plus. En
c'est
vrai,
le contraire.
C'est une information genre de base. Mais moi, je suis comme, c'est méthylé, donc je vais plus exprimer, je sais pas, les cheveux bruns.
Mais moi, je m'attendais à ce que ça soit le même rôle chez les vertébrés et chez les invertébrés, mais en fait, tu me dis que c'est complètement le contraire.
Ben, sur ce vers-là.
Sur ce vers-là, chez d'autres espèces aussi. Le fait que la méthylation se retrouve dans les corps de gènes, puis que ça aide à l'expression, ça a été trouvé chez les abeilles, ça a été trouvé chez les huîtres. Donc, il semble que c'est comme une des fonctions, peut-être de base de la méthylation, et que la méthylation a eu d'autres fonctions plus tard, après, avec l'émergence des vertébrés. Mmh. Et on retrouve cette fonction aussi chez les embryons. Il y a une étude qui a été faite chez les embryons de rats. C'est l'étude vraiment qui a démontré ce mécanisme-là, où finalement on s'est aperçu qu'il y a une molécule spéciale qui est responsable de mettre la méthylation sur le gène. Et donc grâce à ça, ça permet... Le système est un peu compliqué là, mais quand le gène est transcrit en ARN avant d'être traduit en protéine, La molécule qui fait ça, des fois, elle se trompe parce que personne n'est parfait. Et ça se peut que la molécule commence à transcrire au milieu du gène au lieu de transcrire au tout début. Mmh. Donc, le résultat de ça, c'est que à la fin, on a des ARN et des protéines qui sont pas les bonnes. C'est comme, il manque un morceau. Et ça, c'est détruit par la cellule. En général, c'est pas très grave. Mais on a dépensé de l'énergie pour rien à faire cette traduction-là. Donc, quand le corps du gène est fortement méthylé, ça empêche la molécule qui fait la transcription de se tromper. Et donc, ça donne un meilleur rendement de l'expression à la fin.
Est-ce que tu étais capable d'associer la méthylation avec le gène selon les caractéristiques que tu as observées chez les vers? Donc, est-ce que les vers plus longs, qui étaient plus loin des sources, étaient plus méthylés pour ce gène de longueur-là? C'est quoi que ça t'a permis de savoir?
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans le futur.
Okay.
mais avec cette étude-là, j'ai dû comme me restreindre...
Pour finir ton docteur.
C'est ça. mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé le patron de méthylation dans les gènes orthologues. Donc les gènes orthologues, c'est les gènes finalement qui ont la même histoire, finalement le même gène qui se retrouve dans plusieurs espèces. Donc en comparant le même gène dans plusieurs espèces et le patron de méthylation de ces gènes, je me suis rendu compte que les patrons de méthylation qui étaient qui favorisaient la surexpression, c'est-à-dire là où le corps du gène est très fortement méthylé, c'était pas tous les gènes qui avaient ça. En fait, il y avait certaines catégories fonctionnelles de gènes qui avaient ce patron de méthylation-là conservé. Et ces catégories fonctionnelles-là, elles étaient associées à tout ce qui sert à l'homéostasie des protéines, c'est-à-dire tout ce qui sert à faire en sorte que les protéines gardent leur bonne forme et aussi à enlever les protéines qui sont déformées.
Qu'est-ce que ça veut dire par être conservé?
Ça veut dire qu'on va retrouver le même patron de méthylation chez les trois espèces.
OK. Fait que pas juste, mettons, d'une espèce à sa progéniture, sa fille, par exemple, mais entre les espèces.
Donc, entre les espèces, mais l'idée se rejoint, c'est-à-dire que si le patron est conservé, c'est que, quelque part, il y a un espèce de programme qui fait en sorte que ce patron de méthylation-là, il va être reconduit après dans la progéniture, de sorte que tous les descendants de chaque espèce vont avoir ce patron de méthylation-là. Donc, cette conservation, elle est importante parce que, quelque part, ça nous dit que c'est un système qui est important. La méthylation a vraiment un rôle ici, peut-être adaptatif.
Oui, parce que je voudrais juste revenir sur la forme des protéines. Les protéines ont des formes spécifiques qui sont très importantes, sinon les protéines ne fonctionnent plus. Et les protéines sont dénaturées ou elles sont déformées avec la pression et la chaleur. Et donc, deux choses qu'on retrouve en abondance proche des sources hydrothermales. Donc, avoir cette adaptation qui permet de garder la forme des protéines, c'est très intéressant.
Exactement. Donc, souvent, on regarde des adaptations au niveau du gène. Donc, on va regarder qu'est-ce qui a changé dans la séquence qui fait qu'on va produire une protéine qui a une forme différente. Puis, ça peut être une adaptation qui s'est acquise au fur et à mesure du temps, pour produire une protéine qui va être plus adaptée à la pression ou plus adaptée à la chaleur. Mais un autre type d'adaptation, ça peut être au niveau épigénétique, c'est-à-dire où, au fil du temps, la séquence qui produit la protéine initiale n'a pas changé, mais on va ajuster finalement son métabolisme pour aider ces protéines à garder leur forme lorsque finalement on colonise les profondeurs.
Tes trois espèces étaient dans des environnements ou des points localisés différemment sur la source hydrothermale?
Oui, ces trois espèces, il y a une des espèces qui venait d'un océan complètement différent, mais qui était une espèce cousine de l'espèce de ver que j'ai beaucoup étudiée. Et l'autre espèce était une espèce phylogénétiquement plus distante, donc un cousin plus éloigné, mais qui vivait sur le même site. Mm-hmm. Donc, finalement, ce qui relie ces trois espèces ensemble, c'est simplement que ce sont des espèces qui vivent à de grandes profondeurs. Donc, tout ça, au final, ça m'a permis de montrer que la méthylation, c'était très important dans tout ce qui a trait à l'expression des gènes, c'est ces vers-là. Et puis, c'est peut-être aussi important pour leur adaptation aux conditions des profondeurs.
Puis, puisque ce serait une adaptation aux grandes profondeurs, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette adaptation-là ou cette méthylation-là soit transférable chez d'autres organismes des profondeurs, pas juste les vers que tu étudies?
Ben oui, ça se peut que d'autres espèces d'invertébrés, même de poissons, aient des adaptations au niveau épigénétique. Ça serait vraiment intéressant à regarder dans l'avenir pour vraiment être capable de mettre le doigt dessus. Je pense qu'il faudrait comparer des espèces qu'on retrouve vraiment proches de la surface avec leurs cousines qui ont colonisé les profondeurs. Donc ça serait une étude vraiment le fun à faire.
C'est une nouvelle avenue de recherche? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à aller...
Oui, financez-moi.
Non, mais pour vrai, t'as terminé ta thèse maintenant, donc c'est quoi les prochaines étapes?
Alors, la prochaine étape pour moi, je retourne à Hong Kong, je vais joindre un autre laboratoire et je vais travailler sur de la génomique, encore une fois sur les vers. Mais cette fois avec un échantillon beaucoup plus large. Donc, il y a eu un gros projet récemment qui a permis de séquencer le génome de 15 espèces de vers des profondeurs. Et donc, pour la première fois, on va pouvoir vraiment comparer les génomes, essayer de voir comment ils se sont adaptés.
Ces 15 espèces viennent de où?
Elles viennent d'un peu partout dans le monde.
Wow, cool.
Pacifique, Est, Pacifique Ouest, Atlantique...
Est-ce que je peux te demander pourquoi Hong Kong?
Le laboratoire que je vais joindre là-bas, c'est vraiment un laboratoire qui est spécialisé dans l'étude de la génomique. Ils ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de connaissances. Et donc ce projet, c'est quand même un projet international avec des collaborateurs en Angleterre. Mais c'est ça.
Je te remercie pour toutes ces, ces belles histoires-là, pour nous avoir transposé un petit peu ça ressemble à quoi la vie dans les profondeurs, parce que oui, il y en a. c'est noir, mais il y a d'autres choses qui se passent. Puis de nous avoir un peu éclairé sur les sources hydrothermales, sur ces bactéries-là, j'ai beaucoup apprécié.
Avant de finir, est-ce qu'on peut passer aux recommandations?
Oui, recommandations, mais si vous voulez voir des jolies vidéos... Oui. Des profondeurs, il y a le site de Ocean Networks Canada, qui est donc l'observatoire marin qu'on a mentionné plus tôt.
Le câble qui était mis dans les profondeurs.
Oui, exactement. Donc, ils ont des caméras qui sont branchées à ces câbles-là, à différentes profondeurs, mais un qui se retrouve sur des sources hydrothermales. Les projecteurs des lumières s'allument, me semble, 5 minutes, une fois toutes les 4 heures. Donc, on peut se brancher, puis aller voir en live qu'est-ce qui se passe sur une cheminée hydrothermale.
Est-ce que c'est toujours la même chose?
C'est toujours différent. Enfin, ça dépend comment tu le prends, mais tu sais, des fois, il y a des poissons, des fois, il n'y en a pas. Des fois, il y a des araignées de mer, des fois...
Est-ce qu'on peut voir les verres que toi, t'as étudiés?
Oui, absolument. La caméra, en général, pointe sur un groupe de verres. On peut les voir. Ils ne bougent pas, ils sont fixés sur le substrat, mais...
Ah, mais c'est ça. Est-ce qu'ils n'ont pas un mouvement, là? Tu dis qu'il y a des branchies qui sortaient, mais tu sais, j'imagine un petit peu comme en train de... C'est comme les grosses structures gonflables là, quand ils vendent des voitures.
les bonhommes.
Ouais. Je les imagine comme ça là, sur leur source hydrothermale. Ça ressemble à ça.
Oui, oui, ben, ils font ça. S'il y a un peu de courant, ils vont faire ça. Ceux qui sont plus petits, ils vont comme moins bouger. Ils sont un peu plus rigides. Mais c'est ça. En général, ils vont comme ça sortir du tube pour laisser les branchies à l'air ou ils vont rentrer dans le tube.
On a encore une question sur les verres. Est-ce que tu avais d'autres recommandations culturelles ou scientifiques à nous proposer?
Il y a un livre que je lis souvent, qui est comme un livre de science-fiction. Il y a comme des petites nouvelles de science-fiction. Ça s'appelle L'Arbre des possibles. Okay. C'est un auteur français, Bernard Weber, je pense qu'il s'appelle. Et puis j'écoute beaucoup de podcasts aussi en anglais. Et un podcast en français qui parle de mauvais films sympathiques beaucoup qui s'appelle Nanarland, le podcast. Nanar, c'est comme le mot français pour les films mauvais mais qui sont quand même le fun à regarder.
on mettra tous les liens en ligne.
Puis sinon, si on veut te suivre dans ta recherche ou dans tes projets connexes, est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut le faire ou pas encore?
Pas encore. Je pense que je vais m'y mettre. J'attends peut-être d'avoir mon doctorat pour aller sur Twitter parce que je ne peux pas rentrer mon nom. De toute façon, il a déjà été pris.
mais je sais qu'on peut lire ta recherche vulgarisée sur le site des biologistes chercheurs de l'Université de Montréal.
Oui, oui, oui. Donc, le premier chapitre dont on a parlé, j'ai comme écrit un petit texte pour expliquer ça sur le site de LikeBoom, donc de l'Association des étudiants chercheurs de l'Université de Montréal.
Donc, ça, c'était la recherche sur la connectivité des sources.
Exactement. L'histoire des bactéries. Je suis en train d'écrire un autre article pour le Beagle, le journal du CSBQ.
CSBQ, c'est quoi?
Centre de la science et la biodiversité du Québec.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Juste pour ceux qui ne savent pas, ouais, ouais. qui ne connaissent pas l'acronyme.
Exactement. Donc, je vais essayer de finir ça pour l'été. Et puis, sinon, ben, on peut me suivre par courriel.
Tu nous envoies des infolettes sur l'écrit.
On peut me contacter, on va dire, par courriel.
Super. Mais on va mettre tous ces liens-là et ces informations-là dans la description de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Mais aussi, on va mettre du contenu sur notre Instagram.
Les photos.
Ouais, Léa qui est assise à côté de nous, qui prend des photos aussi, des petites bocales d'enveloppes de verre, puis du petit shooter de styromousse. On va tout mettre ça sur notre Instagram.
Ah, j'aimerais rajouter le Twitter de la Société des chercheurs en biologie des profondeurs. C'est vraiment le fun. Il y a toujours des photos extraordinaires qui sont postées. Puis c'est un bon point de départ pour suivre les autres chercheurs dans le milieu de la recherche des profondeurs.
Puis là, je vois que
tu es. Mais le dernier tour, je vous ai pas montré. Tu parlais de la découverte là des sources hydrothermales.
Oui, en 1977.
Exactement. Donc en 2017, il y a eu une conférence à Woods Hole, qui est l'institut qui a découvert ça. Ils ont fait comme un petit médaillon commémoratif de cette première découverte.
Il est magnifique.
Ouais, il est vraiment.
Wow. C'est chez toi.
Oui, c'est j'ai acheté pour mon papa.
Ah cool.
Donc les vers qui vivent sur ce site-là, c'est des vers cousins de l'espèce que j'ai étudiée, mais sauf qu'ils sont beaucoup plus impressionnants parce qu'ils sont énormes. Ils sont comme gros, tu sais, de 20 cm de diamètre, puis ils atteignent comme 1 mètre, 1 mètre 50.
Waouh, c'est énorme.
C'est vraiment, vraiment gros. Les vers qu'on voit dessus, c'est pas les tiens, mais.
C'est pas les miens, mais c'est une espèce proche.
Trop beau. OK. Il y a tellement de choses à découvrir, c'est merveilleux. Mais on va se quitter là-dessus. Encore une fois, Maëva, merci beaucoup pour ta générosité, pour tout ce que tu nous as amené pour découvrir. Là, je suis vraiment quelqu'un qui est visuel, qui aime toucher. Donc, je suis vraiment satisfaite de ma rencontre avec toi. Puis, je te souhaite vraiment bonne chance pour ton postdoc à Hong Kong. J'espère qu'on va continuer d'entendre parler de ta recherche. Et j'espère que tu vas t'associer, mais t'immiscer dans les réseaux sociaux pour qu'on puisse justement suivre tes nouvelles découvertes.
Oui, oui, merci de m'avoir invitée. Ça m'a fait super plaisir d'être là. Puis c'est ça, je vais m'y mettre doucement là. C'est difficile parce que je suis timide.
Mais merci beaucoup.
Merci.